Chapitre 8. Ce qui m'a le plus gêné au début, c'était le calme. Comme la grand-mère de Franck nous laissait tranquilles et qu'il parlait tout doucement, j'avais l'impression qu'il y avait un macabée dans la pièce d'à côté. Il n'arrêtait pas de me demander « Ça va, ça va ?» parce qu'il voyait bien que ça n'allait pas du tout et je répondais « Oui, oui ». Mais vraiment, j'étais super mal à l'aise. Et puis, je m'y suis faite. Comme à l'école, je laissais mes défenses à la porte et je changeais de dimension. La première fois, on s'était mis dans cette salle à manger qui ne devait jamais servir tellement elle était propre. Ça sentait bizarre. Ça sentait le vieux, le triste. On s'est assis l'un en face de l'autre et il m'a proposé de commencer par relire notre scène ensemble une première fois, avant de nous organiser pour les répétitions. J'avais honte. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais tellement rien que je lisais comme une patate, comme si je déchiffrais du chinois. Il a fini par me demander si j'avais quand même lu la pièce ou au moins notre passage de mon côté. Et comme je n'ai pas répondu tout de suite, il a refermé son bouquin et il m'a regardé sans rien dire. Je sentais mes piquants qui recommençaient à pousser. J'avais pas envie qu'il me prenne la tête avec ces conneries de jactance du XIVe siècle. Je voulais bien apprendre mes phrases obligées comme un jargon d'autrefois, genre phonétiquement. Mais je ne voulais pas qu'il fasse le prof avec moi. J'en avais plein le cul des gens qui me remettaient tout le temps à ma place, en me faisant sentir à quel point j'étais une grosse merde. Encore au bahut, je me la bouclais pour éviter un supplément d'embrouille. Mais pas là. Pas dans cette pièce qui puait le polydent. Il fallait qu'il arrête de me regarder comme ça, sinon j'allais partir. J'en pouvais plus qu'on me dévisage tout le temps. J'en pouvais plus. J'adore ton prénom. Ça m'a fait plaisir. Même si, en moi-même, j'ai pensé « Bah tiens, c'est sûr, c'est un prénom de garçon. » Mais d'équerre, il m'a mouché. « C'est celui d'une chanteuse merveilleuse. Tu connais Billie Holiday ?» J'ai secoué la tête. « Ben non, je connaissais rien, moi. » Il m'a dit qu'il me la ferait écouter un jour et il m'a demandé de le suivre. « Viens, installe-toi sur le canapé. Là, je vais te la lire. Tiens, prends ce coussin, mets-toi bien confortable. Mets-toi comme au cinéma. » Comme j'étais jamais allée au cinéma, j'ai préféré m'asseoir par terre. Il s'est posté en face de moi et il a commencé. D'abord, il m'a expliqué tous les personnages dans ma langue natale. Alors voilà, c'est un vieux qui s'appelle le baron. Quand la pièce commence, il est tout excité parce qu'il attend d'une minute à l'autre le retour de son fils Perdicant, qu'il n'a pas revu depuis des années. Perdicant était parti faire des études à Paris. Et de sa nièce, Camille, qu'il a élevée quand elle était petite et qu'il n'a pas vue depuis encore plus longtemps parce qu'il l'avait envoyée au couvent. Ne fais pas cette tête, c'était normal à l'époque. Le couvent remplaçait la pension pour les filles nobles. Elles apprenaient à coudre, à broder, à chanter, à devenir des épouses parfaites, et en plus, on était sûr qu'elles resteraient vierges. Camille et Perdicant ne se sont pas vus depuis 10 ans. Ils ont grandi sous le même toit et ils s'adoraient. Comme des frères et sœurs, et sûrement même un peu plus, si tu veux mon avis. L'éducation de ces deux jeunes gens lui a coûté bonbon, et lui, le baron, ce qu'il voudrait à présent, c'est les marier ensemble. Justement parce qu'ils s'adoraient, et aussi parce que ça lui permettrait de rentrer dans ses frais. Eh ouais, 6 000 écus quand même. Ça va, t'es toujours avec nous? Bon, je continue. Perdicant et Camille ont chacun un chaperon. T'as vu Pinocchio? Alors un Jiminy Cricket, si tu préfères. Quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui les flique en permanence pour qu'ils restent dans le droit chemin. Pour Perdicant, c'est Maître Blasius qui était son précepteur, c'est-à-dire son unique instit quand il était gamin. Et pour Camille, c'est Dame Pluche. Maître Blasius, c'est un gros plein de soupe qui ne pense qu'à picoler, et Dame Pluche, c'est une vieille bique qui ne pense qu'à tripoter son chapelet et à faire « x-x » à tous les hommes qui approcheraient sa Camille d'un peu trop près. Elle, elle est mal baisée, enfin, pas baisée du tout, et il n'y a pas de raison que la petite soit autrement. Déjà, à ce niveau-là, je me rappelle, j'en revenais pas. Je commençais même à avoir des doutes. C'était vraiment ça les devoirs que nous avait donné la prof? C'était vraiment aussi croustillant? J'avais pas eu l'impression pourtant. Déjà, le nom du mec, Alfred de Musset, ça sentait son vieux machin à lorgnon tout rassis et je... Bon, donc je souriais. Et comme je souriais, Franck Mumu était tout heureux aussi. Des petites ailes lui poussaient dans le dos et il en faisait des caisses et des caisses pour garder mon attention. Sans le savoir, il était en train de m'offrir ma première sortie. Le premier spectacle de toute ma vie. Quand il a eu fini de me présenter les personnages, il a vérifié que je les avais bien emmagasinés en me posant des tas de petites questions bien pointues. « Pardon, mais ce n'est pas du tout pour te piéger. C'est pour être sûr que tu suives bien la pièce après, tu comprends ?» Je disais « oui, oui », mais je m'en foutais total de la pièce. Tout ce que je comprenais, c'était qu'un être humain faisait attention à moi et me parlait gentiment. Et là déjà, c'était plus du français, mais de la science-fiction. Ensuite, il m'a lu « On ne badine pas avec l'amour ». Ou plutôt, il me l'a joué. Pour chaque personnage, il prenait une voix différente, et quand c'était le cœur qui parlait, il montait sur un tabouret. Pour le baron, il était un baron. Pour Blasius, il faisait le bon gros pépère à moitié bourré. Pour Briden, le sale petit pépère qui ne pensait qu'à la bouffe. Pour Dame Pluche, une vieille fille qui parlait d'un petit trou de bouche bien serré. Pour Rosette, une gentille paysanne totalement dépassée par les événements. Pour Perdican, un beau garçon qui ne savait plus s'il avait surtout envie de baiser ou de se caser. Et pour Camille, une fille pas très rock'n'roll, mais droite comme un i et bien carrée dans sa tête. Enfin, au début. Une fille de 18 ans qui ne connaissait rien à la vie et qui ressemblait aux bougies qu'on allumait dans les églises. Super simple, super pure et super blanche, mais bien allumée. Ouais, complètement en effusion à l'intérieur. J'étais émerveillée. Exactement comme tout à l'heure, quand j'ai voulu ravaler mes larmes et que j'ai vu le ciel en entier. Le coussin que je serrais fort dans mes bras, c'était comme si j'avais posé un sourire dessus. Je ne faisais que sourire. À un moment, alors qu'il était Perdican qui disait à Camille avec un ton de mépris un peu saoulé, « Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. « Tu ne mourras pas sans aimer. » Il a refermé son livre d'un coup sec. « Pourquoi tu t'arrêtes ?» Je me suis inquiétée. « Parce que c'est la fin de notre scène et que c'est l'heure de goûter. Tu viens ?» Dans la cuisine, en buvant je ne sais plus quoi, de l'orangina, je crois, et en mangeant les madeleines en caoutchouc de sa mamie, je n'ai pas pu m'empêcher de penser tout haut. « C'est nul de nous couper comme ça. On a trop envie de savoir ce qu'elle va répondre. » Il a souri. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'après, il y a des gros pavés de texte, des longs, longs monologues. À apprendre, ce serait coton. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que le plus beau de cette scène, tu verras, c'est tout à la fin. Quand Perdican s'énerve et explique à Camille que oui, tous les hommes sont des nazes, et que oui, toutes les femmes sont des morues, mais qu'il n'y a rien de plus beau au monde que ce qui se passe entre un naze et une morue quand ils s'aiment. Je lui ai souri. On ne s'est rien dit d'autre, mais à ce moment-là, tous les deux, on connaissait déjà la suite. On a fait genre de finir nos verres comme si de rien n'était, mais on le savait. On le savait, et on savait que l'autre le savait aussi. On le savait que c'était notre dernière chance, et qu'on tenait là notre revanche sur toutes ces années de solitude passées au milieu des nazes et des morues du monde entier. Oui, on n'a rien dit. Et on a regardé par la fenêtre pour redescendre en pression. Mais on le savait. Qu'en vrai, nous aussi on était beaux. Chapitre 9. Je pourrais passer la nuit à te raconter ce qui s'est passé ensuite. Ces 2 semaines avec lui. À discuter, à apprendre, à travailler, à jouer, à nous engueuler, à nous réconcilier. À jeter mon bouquin, à m'énerver, à renoncer, à criser, à recommencer, à jouer de nouveau et à travailler encore. Je pourrais y passer la nuit parce que pour moi, ma vie, elle a commencé là. Et ce n'est pas une expression, petite étoile. C'est un extrait d'acte de naissance. Alors ne badine pas avec ça, s'il te plaît. tu me vexerais. » Nous avions décidé de nous retrouver tous les après-midi pour répéter les scènes que nous avions apprises le matin même. Et très vite, j'ai dû trouver un autre endroit que mon doux foyer pour être au calme. J'ai testé plusieurs coins, l'arrière d'une carcasse de voiture, le porche de l'ancienne scierie, le lavoir, mais c'était devenu un jeu chez les morpions de ma belle-sœur, de mon genre de belle-sœur, disons de ma belle-sœur à la mode de chez nous, de me pister non-stop pour venir m'emmerder. Et au final, j'ai atterri au cimetière et je me suis installée dans un caveau. Toutes ces croix, tous ces ossements, tous ces débris de pierres cassées et de fer rouillé, ça vous calmait direct. Et c'était parfait pour amadouer cette chieuse de Camille et sa manie des crucifix. Je ne l'ai pas fait exprès, mais vraiment, ça tombait bien. Je ne sais pas si c'était lié au lieu, si les morts avaient décidé de me donner un petit coup de pouce parce qu'ils s'ennuyaient et qu'ils voulaient tuer le temps, mais je n'en reviens toujours pas de la vitesse et de la facilité avec lesquelles j'ai appris ces textes. Comme j'ai conservé précieusement mon vieux bouquin, il m'est arrivé de relire notre scène pour le plaisir. Et à chaque fois, j'ai été obligée de me pincer pour y croire. Comment avons-nous fait? Mais comment ai-je fait? Moi qui ne sais toujours pas mes tables de multiplication et qui pédalais dans le vide dès qu'un prof nous demandait d'apprendre par cœur un truc de plus de 5 lignes. Je ne sais pas. Je crois que c'était pour être digne de Frank Muller, pour ne pas le décevoir, pour le remercier de m'avoir parlé si gentiment le premier jour. C'est bête, hein? Et puis, je serais incapable de l'expliquer avec des mots intelligents, mais il me semblait que je tenais là beaucoup plus qu'une revanche à la con sur un monde et des gens qui, en réalité, m'indifféraient depuis longtemps. Je n'avais rien à prouver à personne. Rien. Je voulais juste faire plaisir à Franck et m'arracher. J'étais trop jeune pour le comprendre à l'époque, et je n'ai pas assez de vocabulaire pour le dire aujourd'hui. Mais j'avais l'impression, quand j'étais recroquevillée dans mon caveau, à apprendre les mots de cette fille qui n'en finissait pas de gratter et de gratter encore pour trouver une réponse aux questions de folie qui lui mangeaient la tête, que j'en profitais aussi. Oui, que je me faufilais dans ce quelque chose d'affamé d'elle pour lui prendre un peu de sa niaque au passage et me barrer dans son sillon. Ce que je devais me dire, sans le savoir, c'est que si j'assurais vraiment avec mes répliques et que je permettais ainsi à Frank Muller de jouer son rôle dans les meilleures conditions possibles, eh bien, je ne serais plus des morilles. Je serais de moi-même, de moi toute seule, de ce caveau abandonné, de ma minuscule chapelle. Oui, j'étais cachée là, assise au milieu des gravats à écouter les délires de cette petite bourge qui n'avait jamais souffert de rien et qui voulait tout, qui voulait rafler toute la mise avant même de commencer la partie, ou qui préférait ne pas jouer sinon, qui préférait ne rien vivre plutôt que de vivre comme les autres. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de la serrer de près pour qu'elle me fasse la courte échelle vers son besoin de plus grand qu'elle. Parce que même si je n'étais pas d'accord avec ses fixettes, je l'admirais. Je savais qu'elle se trompait. Je savais que les bonnes sœurs lui avaient lessivé le cerveau et que ça l'arrangeait bien, parce qu'elle avait les jetons de sauter dans le vide. Je savais qu'elle se laissait bouffer par son orgueil et qu'elle allait en chier toute sa vie à cause de son entêtement de pureté à la con. Je le savais que si elle avait fait, elle aussi, ne serait-ce qu'un tout petit tour aux morilles, elle se serait calmée direct et aurait envisagé sa vie avec plus de modestie. Mais en attendant, et à cause de ça, justement, c'était la meilleure coéquipière possible pour me faire la belle. Elle était tellement butée et psychorigide qu'elle ne renoncerait jamais. Et si j'assurais de mon côté, tout tiendrait bon. Yes. À deux têtes de mule pareilles, on allait le faire, ce putain de casse. Bien sûr, rien de tout cela n'était conscient, mais j'avais 15 ans, petite étoile. J'avais 15 ans, et je me serais accrochée à n'importe quoi pour m'arracher. Oui, je pourrais y passer la nuit. Mais comme je n'ai pas le temps, je vais faire avance rapide et ne garder que 2 moments importants de cette petite aventure. Le premier, c'est la discussion qui a suivi sa lecture du premier jour. Et le second, c'est ce qui s'est passé à la fin de notre représentation. Au fait, t'es toujours là, petite étoile? Tu me claques pas dans les doigts, hein? Quand t'en as trop marre de mes histoires, tu m'envoies un kit avec une civière et deux jolis garçons pour ressusciter mon Franky, et je te lâche la grappe direct, promis. Eh, te fatigue pas. Chourlé chez Abercrombie, comme ça ils seront déjà montés.